Autour de la question, sous le ciel étoilé de Marrakech.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour ce mois de rediffusion estivale qui s'ouvre au nord du continent, sous le ciel étoilé du Maroc, où nous avions installé en octobre dernier notre studio nomade sur le campus de la grande université Kadi Hayat de Marrakech pour nous interroger sur la pollution lumineuse. Pourquoi la nuit est-elle menacée ici comme ailleurs? Et qu'est-ce que ça change pour les observations des astronomes, évidemment, les premiers à nous alerter, mais aussi pour tous les êtres vivants sur Terre? Comment préserver nos nuits étoilées et pourquoi c'est essentiel? Autant de questions astronomiques, environnementales, métaphysiques, mais aussi sociétales, partagées dans un atelier international et interdisciplinaire sur la pollution lumineuse qui s'est tenu à Marrakech en octobre dernier, avec pour objectif la création de la plus grande réserve de ciel étoilé d'Afrique du Nord autour de l'observatoire de Loukemden dans le Haut Atlas marocain. Atlas Dark Sky, lumineux projet porté par nos invités, l'astrophysicien marocain Zouaïr Ben Khaldoun, créateur et directeur de l'observatoire de Loukemden, le physicien québécois Martin Aubé, spécialiste de pollution lumineuse, et l'astronome français Sébastien Vauclair, autour de la question « Pourquoi une réserve de ciel étoilé dans l'Atlas marocain ?» Première piste de réponse en version originale du biologiste Mohamed Ghazimi, directeur du musée d'histoire naturelle de Marrakech.
فضاء غادي يكون رائع فضاء من أجل تثقيف من أجل مساهمة في جعل المنطقة منطقة سماء مضيء سماء جميل حيوانات ونباتات في أقصى ظروف مهمة وجيدة للحياة وخصوصا للإنسان لأنه عنده علاقة وطيدة بهذه الحميلات البيئية. J'ai dit ce serait un espace magnifique, ce serait une réserve très 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 intéressante où il y aura la relation entre faune, flore, ciel et les humains pour le bien du tourisme. Pour le bien de l'économie de la région et pour le bien donc de l'environnement en général.
Bonjour Zouaïr Ben Khaldoun.
Bonjour Caroline.
Merci de nous accueillir chez vous ici. À l'université Kadi Hayat de Marrakech, où vous êtes professeur d'astrophysique, chercheur de renommée internationale, grand passeur d'astronomie. C'est vous qui êtes le directeur de l'observatoire de Loukemden, le premier observatoire astronomique professionnel du Maroc, associé à de nombreuses découvertes. On peut peut-être citer celle collaborative du plus important système d'exoplanètes. Il y a aussi un astéroïde qui porte votre nom, l'astéroïde 13-38-92 Ben Khaldoun, c'est ça?
C'est ça.
Et c'est vous qui êtes donc à l'initiative et qui dirigez ce formidable projet de réserve internationale de ciel étoilé dans l'Atlas marocain, la première réserve de ciel étoilé sur le continent africain, le projet Atlas Dark Sky qui vous tient tant à cœur. Expliquez-nous pourquoi, Zouaïr.
Eh bien, je pense que tout le monde va le deviner. Par mon métier, je suis astronome. Par ma fonction, maintenant, je suis directeur d'un observatoire. La pollution lumineuse, les astronomes ont été les premiers, je pense, à réfléchir à cette problématique. Et donc, c'est comme je le dirai dans ma présentation, je ne veux pas être aveugle pour l'avenir. Et donc, j'essaie de protéger l'observatoire. En premier lieu, donc c'est le moteur de départ. Préserver donc cet observatoire qui est modeste par sa taille par rapport aux observatoires qu'on connaît, mais aussi pour protéger toute une région qui potentiellement peut accueillir de grands télescopes. Pour toujours la même raison qui nous guide, c'est développer cette science au Maroc, constituer une masse critique pour qu'on puisse faire de la recherche de niveau international au Maroc.
Alors, des réserves de ciel international, hein, de ciel étoilé, il y en a 12 aujourd'hui dans le monde. La première, elle a été celle du mont Mégantic au Québec, que vous connaissez bien. Martin Aubé, bonjour.
Oui, je fais partie des irréductibles gaulois d'Amérique.
Alors, vous êtes spécialiste de pollution lumineuse, pionnier, on l'a compris, dans ce domaine. Professeur Martin Aubé au département de physique du Cégep de Sherbrooke, au Canada. Lauréat de nombreux et prestigieux prix scientifiques, vous vous attachez à modéliser la pollution lumineuse et d'abord à la mesurer, ce qui n'est pas une mince affaire, on va y venir, parce que vous avez apporté avec vous, ici au Maroc, des instruments que vous avez conçus pour détecter non seulement l'intensité, mais aussi la couleur du ciel nocturne. Vous menez aussi des recherches sur l'impact de cette pollution lumineuse, on va y venir aussi, en collaboration avec des chercheurs dans le domaine de la santé notamment. La pollution lumineuse, c'est un énorme champ de recherche, encore assez peu exploré, et qui nous concerne tous, hein, partout dans le monde, quel que soit le continent sur lequel on vive. Voilà pourquoi vous encouragez, Martin, la création de nouvelles réserves de ciel étoilé comme Atlas Dark Sky, ici au Maroc.
Le problème de la pollution lumineuse, c'est un problème qui est généralisé à la planète, pratiquement. Il y a quelques îlots de noirceur qui subsistent encore, mais la plupart des sites sont pollués. Et une bonne raison pour expliquer ce phénomène, c'est la portée, la très longue portée de la pollution lumineuse. Les villes peuvent polluer l'environnement jusqu'à des centaines de kilomètres.
Parce qu'on peut se dire qu'ici, sur le continent africain, autour de Marrakech, le continent pourrait être un peu épargné par cette pollution lumineuse. Les nuits pourraient être encore noires, en tout cas dans le Haut Atlas, par exemple.
Ouais, tout est relatif, c'est relativement encore épargné. Mais justement, il faut protéger. Il faut protéger, il faut au moins conserver la qualité du ciel et la nuit, en fait. C'est plus que le ciel, c'est la nuit, parce qu'on a des espèces animales qui dépendent de l'obscurité, donc les humains aussi. Alors, il faut protéger la nuit, puis le peu d'espace encore protégé, il faut davantage le protéger. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de dégradation et éventuellement améliorer la situation dans ces mêmes espaces. Alors, c'est un peu le but des réserves de ciel étoilé, c'est de stopper l'hémorragie, si on veut, et éventuellement améliorer la situation.
Bonjour Sébastien Vauclair.
Bonjour.
Alors, vous êtes astrophysicien non pratiquant, vous aimez à dire, c'est ça?
Oui, on peut le dire comme ça. Disons que j'ai le diplôme, puisque j'ai passé un doctorat en astrophysique, mais j'ai volontairement, j'insiste, hein, parce que c'est pas la difficulté d'accès aux travaux de recherche qui m'ont bloqué, mais j'ai volontairement choisi en fait de continuer dans le domaine de l'astronomie quand même, puisque je pense qu'il y a à peu près que ça que je sais faire bien. Continuer donc une activité professionnelle, mais que j'ai créée moi-même.
Vous êtes aujourd'hui gérant de la société Dark Sky Lab, spécialiste dans l'étude scientifique et technique de la pollution lumineuse, et vous êtes venu apporter ici au Maroc votre expertise, car vous êtes à l'origine de la première réserve internationale de ciel étoilé en Europe, autour de l'observatoire du Pic du Midi en France, et vous venez aussi de contribuer à la labellisation du parc des Cévennes, toujours en France, la troisième en taille dans le monde, et vous ne voulez pas vous arrêter là, voilà pourquoi vous êtes ici à Marrakech. C'est important, ce label Dark Sky, de créer donc des réserves de ciel étoilé partout dans le monde, Sébastien?
Oui, alors il est clair qu'on ne va pas s'arrêter si bon chemin, comme l'a dit Martin, le but du jeu, c'est de faire un maximum de réserves partout, et j'irais même un peu au-delà, c'est que le but du jeu, c'est de plus avoir à faire de réserves. C'est-à-dire que si on arrivait à faire prendre conscience un peu tout autour du globe et tout autour de la planète, eh ben, la notion de réserve ne serait juste caduque et on n'aurait plus besoin de travailler là-dessus.
L'importance de préserver cette nuit noire, cette nuit étoilée, de pouvoir regarder le ciel.
Sans vouloir employer de grands mots, mais le ciel étoilé, c'est quand même le tout premier patrimoine de l'humanité, hein. Et il faut quand même que savoir qu'aujourd'hui, on est dans l'Université des sciences de Marrakech ici. Mais s'il y a des sciences aujourd'hui, c'est bien parce qu'un jour, l'homme a levé les yeux vers le ciel. Je m'amuse à dire que Homo erectus, vous savez, quand il a commencé à se mettre sur deux pattes, c'est devenu aussi Homo astronomicus. Et donc aujourd'hui, si on fait des sciences, des mathématiques, de la chimie, de la physique que Martin enseigne, etc., finalement, c'est pour répondre aux questions existentielles de l'humanité qui sont des questions d'astronomie. C'est qu'est-ce qu'on fait là? Où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'il y a autour, etc. Mais il y a quand même une notion assez fondamentale qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on a une atmosphère qui nous protège, sinon il n'y aurait pas de vie sur la Terre, et que cette atmosphère laisse entrouvert une fenêtre. On a l'habitude d'appeler ça la fenêtre du visible. Moi, j'appellerais plutôt ça un petit vasistas, parce que c'est vraiment une toute petite partie des longueurs d'onde de la lumière qui sont capables de traverser cette atmosphère. Il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre qui est fondamental, c'est que c'est exactement cette toute petite partie de la lumière, c'est pour ça qu'on l'appelle visible, qui est visible à l'œil humain en fait. En d'autres termes, on peut imaginer que l'être humain est fait pour être capable de voir juste la lumière des étoiles qui traversent l'atmosphère. Et la pollution lumineuse, qu'est-ce que ça fait? Ça ferme la fenêtre, les volets, les rideaux, et ça empêche de voir à travers cette fenêtre l'univers qui nous entoure.
Ouvrons les fenêtres autour de la question de la pollution lumineuse et de la création de réserves de ciel étoilé. Je propose d'écouter Bob Marley sur RFI, ici à Marrakech. Turn your light down low. C'est votre choix, Sébastien Vauclair.
Autour de de la question. Sous le ciel étoilé de Marrakech.
Turn your lights down low. And pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in.
De la question, pourquoi et comment créer une réserve de ciel étoilé dans l'Atlas marocain et comment sensibiliser la population sur place autour de ce parc national du Toubkal et autour de l'observatoire d'Oukemden à l'impact de la pollution lumineuse, souvent assez anarchique. C'est important pour vous, Zouaïr Ben Khaldoun, de faire passer ce message à la population ici au Maroc et vous avez de sacrés relais pour le faire. Je vous propose de retrouver le biologiste et écologue Mohamed Gamizi, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Marrakech, qui est parti dans la région montagneuse d'Al Haouz, on dit comme ça, Al Haouz. Allez-y.
House.
Ah, c'est mieux. Avec ses étudiants et étudiantes pour faire passer le message justement aux jeunes écoliers, collégiens, lycéens qui vivent dans les hauteurs de l'Atlas.
La réserve du ciel étoilé qu'on propose au niveau de ce projet Atlas Dark Sky, c'est une réserve justement qui se situe dans un parc national, et le parc national de Toubkal. Et tout autour, il y a des centres, il y a des villages, il y a des établissements scolaires. Et nous voulons leur montrer l'importance de ce projet et l'importance de lutter contre la pollution lumineuse et donc surtout de travailler avec nos compétences. Ce qui fait que nous avons mené des ateliers pédagogiques qu'on a appelés sur le thème atelier pédagogique biodiversité et lumière. Donc la relation entre la biodiversité et la lumière, l'impact de la lumière sur les cycles biologiques, l'impact de la lumière sur des faunes qui sont nocturnes, comme des papillons nocturnes, sont des pollinisateurs. Ce sont des espèces très particulières qui jouent un rôle très important dans la chaîne alimentaire. Ce qui fait qu'il y en a certains qui sont des ravageurs, etc. Donc, jouer sur la lumière, c'est jouer sur leur cycle. Et donc, perturber la lumière, c'est perturber leur cycle. Certaines espèces peuvent être abondantes, d'autres moins abondantes, d'autres vont être éliminées dans un cycle d'un oiseau, dans un cycle d'une autre espèce, etc. Donc c'est très très important au niveau association économique, développement durable, biodiversité et cette relation donc d'avoir une réserve de ciel étoilé.
Zouaïr Ben Khaldoun, vous voulez réagir à cet éclairage du biologiste Mohamed Gamizi. C'est important pour vous de faire passer l'importance du ciel étoilé et les liens entre lumière et biodiversité.
Cette problématique de pollution lumineuse peut être considérée comme une maladie. Alors, quand l'homme est malade, il va en général d'abord aller voir le généraliste. Et quand on détecte que la maladie est assez sérieuse, on va voir les spécialistes. Et c'est un peu le cheminement qui a été fait ici depuis longtemps. On a été nous-mêmes, évidemment, soucieux de cette problématique de pollution lumineuse.
En tant qu'astronome, en tant qu'astrophysicien, ici...
En tant qu'astronome astrophysicien et en tant surtout que directeur, encore une fois, d'un observatoire que j'aimerais bien pérenniser. C'est surtout cela.
Cet observatoire, vous nous le décrivez, il est donc dans le Haut-Atlas.
Voilà, il est à 75 km par la route de Marrakech, il est à 45 km à vol d'oiseau. Il est à 2750 mètres d'altitude. Il se trouve dans un site qui est très beau, et, mais malheureusement, je dirais, qui est aussi une station de ski. Et donc, il y a même localement quelques problèmes d'éclairage.
La pollution évidemment, lumineuse n'a fait qu'augmenter autour de l'observatoire.
Voilà, ces dernières années, ça a été, l'augmentation est vraiment spectaculaire.
Le développement avec la lumière.
Oui, ben justement, le développement tel qu'il est conçu, c'est de faire comme l'Europe. Et je pense que c'est ça, là la plus grosse bêtise ou erreur. Et c'est pour cela, vous voyez, on a mis la thématique du Festival d'Astronomie cette année, c'est le ciel, un patrimoine à sauvegarder.
Donc de l'importance à tous les niveaux de préserver
ce ciel. C'est réellement un patrimoine, plus peut-être pour les régions arabes et peut-être africaines aussi que pour les régions européennes, qui sont, du point de vue de la météorologie, pas très bien servies.
J'aimerais bien, Martin Aubé, qu'on revienne sur l'impact de cette pollution lumineuse, parce qu'on en parle, on se rend bien compte que pour les astronomes, c'est compliqué quand la fenêtre se ferme, mais pas seulement. On est en train de se rendre compte aujourd'hui que la pollution lumineuse, que nos nuits, que la nuit est menacée, et que ça menace le vivant sur Terre.
Oui, c'est intéressant parce que moi, j'ai commencé mes recherches il y a à peu près 15 ans. Il y a 15 ans, on parlait de pollution lumineuse astronomique. C'est tout ce qu'on connaissait, en fait, sur la pollution lumineuse. Maintenant, ben, au fil des recherches et des résultats, on s'est aperçu que certaines espèces animales sont affectées, certaines espèces végétales aussi.
Puis alors, les espèces animales qui sont nocturnes, par exemple?
Pas seulement nocturnes, non. Des pollinisateurs diurnes aussi. Bon, on a vu, d'ailleurs, ici, à l'atelier scientifique de Marrakech, on a eu l'occasion d'entendre plusieurs communications sur ces thématiques. Plus récemment, on a appris aussi, c'est-à-dire à ce niveau, au niveau de la santé humaine, on a des indications, c'est pas encore des résultats très solides, mais plusieurs études ont démontré certains liens entre, potentiels, je devrais dire, entre la lumière nocturne et des problèmes de santé. Donc là, on est
vous travaillez vous-même, d'ailleurs, oui, avec des chercheurs, notamment, je crois, à Barcelone qui travaillent sur lumière et pollution lumineuse et santé humaine, notamment dans le cas de cancer. Hein.
C'est extraordinaire, en fait, pour moi, parce que j'étais déjà préoccupé par le problème, sachant que l'organisme humain est sensible à certaines couleurs, plus particulièrement pour l'horloge biologique, notamment la lumière bleue. Donc, avec l'arrivée de nouveaux types d'éclairage, maintenant qu'on voit de manière assez généralisée, les diodes électroluminescentes qu'on appelle au Québec les DEL.
À vous, c'est DEL et nous, c'est LED.
En France, les LED, donc c'est l'acronyme anglais, en fait. Je me permets de blaguer sur ce thème. Mais effectivement, donc moi, j'étais un peu stressé,
mais c'est un souci,
si on veut.
C'est lumière bleue, oui, c'est un souci.
Ben, pour moi, c'était un souci. C'est un peu l'application du principe de précaution. Sachant qu'il y a possiblement ce lien, l'arrivée massive des DEL, est-ce qu'il va y avoir des problèmes de santé épidémiques là, dans la population? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai quitté un peu, si on veut, l'astrophysique, parce que moi aussi, j'étais à l'origine astrophysicien, pour me concentrer sur la santé. Puis, ce qui est intéressant aussi pour un scientifique dans cette approche, c'est que ça nous force, en fait, à aller vers la transdisciplinarité, donc à joindre les expertises variées. Alors, moi, quand je parle à quelqu'un dans le domaine, un épidémiologue, par exemple, c'est très enrichissant pour moi. Puis, il y a une complémentarité des expertises qui se développent. Alors, dans mon cas, par exemple, je peux mesurer la lumière. Est-ce qu'un épidémiologue peut avoir de la difficulté à faire?
À ce sujet, justement, puisqu'on est tous sous le même ciel, vous êtes venu ici au Maroc avec vos instruments pour mesurer la lumière, ce qui n'est pas simple du tout, et pour mesurer aussi ses couleurs, hein, puisqu'on l'a dit, la couleur a son impact. Et nous avons ensemble, hier soir, ici à Marrakech, sur la terrasse de notre hôtel, fait une petite expérience in situ et testé en compagnie de l'astrophysicien Ismaël Moumen un appareil que vous avez conçu, Martin Aubé. Je vous propose d'écouter et puis vous nous expliquerez ensuite. Là, on est sur la terrasse de notre hôtel hein, à Marrakech. Et vous avez installé cet appareil, donc un cylindre sur des pieds. Et il est capable de
mesurer la brillance du ciel, mais dans quatre couleurs distinctes. On parle du rouge, du vert, du bleu et du jaune. En plus de ces quatre couleurs, on a toujours la mesure qui contient toutes les couleurs simultanément, donc qui ne détecte pas la couleur, en fait, spécifiquement. Donc ça, c'est l'appareil normal, si on veut, que tout le monde utilise sur la planète actuellement. Selon le type d'éclairage qui va être utilisé dans une région, on parle de régions assez larges, plusieurs, même centaines de kilomètres, il y a un mélange de toutes sortes d'éclairages, de toutes sortes de couleurs. Donc cette couleur-là se reflète dans le ciel, et c'est ce qu'on va voir avec cet appareil-là. Alors que si on prend l'appareil le usuel, on ne voit pas la couleur. Donc c'est, s'il y a plus de bleu, par exemple, ou plus de rouge, ça donne le même niveau. Alors ici, on peut distinguer chacune des couleurs séparément. Comme on sait que le bleu, par exemple, a un effet sur la santé, bien, c'est intéressant de pouvoir la distinguer des autres couleurs. Alors, en ce moment, ça paraît pas, mais l'appareil est en train de faire une mesure.
D'accord.
Oui. Donc, on change de filtre. Mm-hmm. En fait, là, on va vers le filtre rouge. Après la mesure du filtre rouge, ce sera le tour du filtre vert, bleu, jaune, et ensuite, on retourne à la zone sans filtre.
Ismaël, vous étiez intéressé de savoir quelles étaient les mesures qui avaient pu être prises à l'observatoire d'Oukemden ou quelles mesures pourraient être prises avec cet appareil de Martin qui mesure les différentes couleurs?
Ah oui, j'étais très intéressé parce que une étape importante aussi dans le projet, c'est de pouvoir archiver la situation actuelle pour pouvoir comparer avec l'évolution du projet. Un des cas qu'on peut appliquer, par exemple, c'est que si on peut avoir les données avant la création de la réserve et au cours de la création de la réserve et à la fin de la création de la réserve, on peut compiler toutes ces données-là et créer des modèles qui peuvent servir à d'autres, par exemple, télescopes qui souffrent de la même, du même problème et qui n'ont pas encore eu la chance de créer une réserve de ciel étoilé.
On parle de pollution lumineuse, parce que là, il y a un peu de pollution sonore dans les rues de Marrakech cette nuit. Hein.
Donc, ça doit être soit un mariage, soit... c'est des gens qui sont contents.
Autour de la question, sous le ciel étoilé de Marrakech.
Son et lumière à Marrakech la nuit. Martin Aubé, on était avec l'astrophysicien Ismaël Moumen. Vous nous expliquez un peu pourquoi c'est important et assez révolutionnaire hein, d'avoir des instruments qui mesurent la pollution lumineuse, donc l'intensité de la lumière et les couleurs.
Oui, d'abord, il y a un défi au niveau de la mesure en pollution lumineuse, c'est que l'intensité lumineuse est très faible. En fait, les astrophysiciens connaissent bien le problème, mais dans le domaine de la mesure de la lumière... hors astrophysique, je devrais dire, c'est un peu moins connu. Donc on
La nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière,
non,
donc c'est compliqué
de
la mesurer. Oui.
Donc on parle de niveau 100 millions de fois plus faible que ce qu'on a en plein jour, par exemple. Donc il y a un défi technique de ce côté. Maintenant, l'autre défi, c'est qu'il n'existe pratiquement aucun instrument. Donc faut créer les instruments. Tout est à créer, c'est très stimulant pour les chercheurs, mais en même temps assez exigeant, parce qu'on doit créer les outils qui nous permettent ensuite d'analyser la situation. Pour accélérer le processus de mon côté, c'est ma stratégie actuellement, c'est de développer des appareils dits accès libre ou open source, si vous préférez. Donc, j'utilise cette stratégie-là dans une perspective de permettre la démocratisation aussi des instruments, mais la prolifération.
C'est-à-dire qu'on puisse, sur tous les continents, notamment ici sur le continent africain, finalement se procurer, c'est encore des prototypes, hein, mais ce genre d'appareil pour mesurer l'intensité lumineuse et que tout le monde puisse, c'est des appareils pas trop chers et qui peuvent en plus fonctionner en réseau, donc on puisse récupérer toutes ces informations.
Tout à fait. Nous ne sommes pas rendus à cette étape, mais très bientôt, la recette, les plans, vont être distribués gratuitement sur Internet.
Zouhair Ben Khaldoun.
Oui, ben, je rejoins un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au cheminement que nous devons avoir ici. Dans ce projet-là, en particulier, il y a une composante recherche et développement que nous caressons bien, très bien, vu que nous sommes à l'Université Qadayad. Et donc, on va autour du projet proposer des thématiques de recherche, des stages, dans cette thématique-là. Et comme il y a beaucoup à créer, nous espérons effectivement prendre le raccourci nécessaire pour qu'on puisse localement développer et une expertise et pourquoi pas la fabrication carrément des instruments ou des lampes par la suite à installer dans cette réserve et pas seulement. La législation suit un peu partout.
C'est ça, parce qu'en fait, on va y venir à cette question des réserves et la législation, parce qu'au fond, c'est obtenir un statut, une labellisation. Mais vous avez emmené, hein, je crois, Martin Aubé et son instrument sur l'observatoire d'Oukemden. Alors, au niveau de la pollution lumineuse ou de l'intensité, des couleurs la nuit dans cet observatoire, dans le Haut Atlas, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez mesuré
Zouaïr? Oui, la nuit du samedi à dimanche, on a passé une nuit blanche.
Ça, les astronomes, ils savent bien faire.
Voilà, avec en particulier Andrea Sanel, un des spécialistes de la pollution lumineuse, et Zoltán Kolat, qui est hongrois. Oui. Et qui est président de l'association d'astronomie hongroise. Et ils ont été ébahis. Ils ont, à plusieurs reprises, pendant les observations, ils n'ont cessé de répéter, on n'a jamais vu ça. Ils ont un peu voyagé partout et ils connaissent les ciels. Et ils me l'ont répété plusieurs fois, c'est extraordinaire, c'est incroyable.
On est tous sous le même ciel, mais le ciel dans le Haut Atlas ou sur le continent africain n'est pas tout à fait le même.
Voilà, du point de vue du positionnement de la Terre dans sa rotation autour du Soleil, effectivement, chaque point a un coin du ciel particulier, mais beaucoup en commun avec le globe terrestre. Mais c'est la qualité du ciel lui-même qui diffère en fonction évidemment des sites. Et la transparence du ciel de Camden est très exceptionnelle, très, très bonne. Et donc le site de Camden se classe parmi les meilleurs sites au monde par rapport donc à cette qualité-là.
Voilà pourquoi vous avez pu participer et collaborer à des découvertes dont celle du plus important système d'exoplanètes connu à ce jour.
Exactement, je l'ai dit tout à l'heure, la dimension des télescopes est relativement modeste, même très modeste. Que nous avons à Camden.
C'est quoi le...
Ben, le plus grand, celui qui a participé à la découverte du plus renommé système d'exoplanètes à ce jour, il a 60 cm. Mais la technique qu'il y a derrière permet de mesurer ce qu'on appelle un transit d'exoplanètes. Donc on n'a pas besoin vraiment d'un grand télescope pour mesurer cette diminution qui est le premier indicateur de l'existence d'exoplanètes, de planètes qui se trouvent...
On n'a pas besoin d'un énorme télescope, mais on a besoin d'un très beau ciel, très profond.
Exactement.
J'ai la chance, autour de cette table, d'avoir, trois astrophysiciens qui représentent chacun les plus belles réserves de ciel étoilé sur chaque continent. Zouaïr sur le continent africain, Sébastien sur le continent européen, et puis Martin sur le continent nord-américain. C'est quoi le plus beau ciel que vous ayez vu, monsieur Sébastien?
Moi, j'ai des souvenirs plutôt petits, en fait, parce que force est de constater que les choses ont évolué depuis 10, 20, 30 ans.
Vous voyez des plus beaux ciels.
Tous les astronomes qui ont eu l'occasion d'observer le ciel depuis quelques décennies, comme c'est déjà mon cas, moi, j'ai des souvenirs d'avoir vu, par exemple, mon ombre la nuit, uniquement par la lumière de la Voie lactée, c'est-à-dire une nuit absolument sans lune, de voir notre ombre projetée au sol uniquement par rapport à la lumière des étoiles et de la Voie lactée, et ça, je précise, en France. Ce qui, aujourd'hui, à mon avis, n'est plus vraiment possible, quoi. Je l'ai vu nulle part ailleurs.
Alors, c'était dans aujourd'hui, il faudrait venir sur le continent africain, peut-être.
Oui, mais encore en altitude, comme on l'a dit ici, parce que c'est pas à 10 km de Marrakech que c'est possible. Hein. Donc, c'est les choses qu'on voit aujourd'hui dans le désert de l'Atacama au Chili, des choses comme ça.
Martin?
C'est amusant parce que j'ai la même anecdote, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, moi aussi, c'était au moment de l'enfance où j'ai vu pour la première fois, je m'intéressais déjà à l'astronomie, mais j'avais jamais vu l'éclat de la Voie lactée comme elle pouvait l'être au Mont Mégantic, qui est devenue la réserve par la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que suite à l'instauration de la réserve, c'est maintenant possible à nouveau.
Donc ça marche, les réserves de ciel étoilé.
Ça marche et de mon point de vue, c'est très positif parce que la plupart des pollutions, on voit avec les changements climatiques, par exemple, il y a un mouvement qui est démarré, puis c'est presque impossible à stopper complètement. On peut peut-être le ralentir. Donc, avec la pollution lumineuse, c'est positif. On peut fermer la lumière, il n'y en a plus.
Génial. Autour de la question, pourquoi et comment créer cette réserve de ciel étoilé ici au Maroc? On a déjà quelques réponses, mais on continue de s'interroger en écoutant Oum, peut-être une des plus belles voix bluesy du Maroc sur RFI. نقول لك شحال شحال من كلمة بغيت نغني لك شحال من نغمة بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال
انا بغيك معاك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال ما زال بغيت نطوف ونشوف معاك بلدان وبحور وعراسي وجبال وجبال اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك اليوم هاني وكل ما فيا هديت ليك
RFI, le morceau s'appelle Leak. Très belle voix, bluesy, doom, au Maroc où nous sommes, sur le campus de l'université de Kadi Ayad de Marrakech, en compagnie de l'astrophysicien Zouhair Ben Khaldoun, du spécialiste de la pollution lumineuse Martin Aubé et de l'astrophysicien astronome Sébastien Vauclair, autour de la question pourquoi créer une réserve internationale de ciel étoilé dans l'Atlas marocain ? Et si c'était aussi, comme on l'a compris, avec vos souvenirs respectifs pour le plaisir des yeux et du cœur, comme nous le rappelait avec l'enthousiasme qui le caractérisait le célèbre et regretté astrophysicien André Braille, qui nous faisait partager son plus beau souvenir de nuit étoilée.
J'ai eu une expérience extraordinaire, c'était dans 2006. J'étais allé voir une éclipse de soleil au milieu du désert du Ténéré, un endroit où il n'y a pas une lumière, au nord du Niger. Et bien là, moi qui suis habitué à aller dans des hôtels avec souvent beaucoup d'étoiles, je suis astronome, c'est normal, hein. Et bien il n'y a pas d'hôtel là-bas, on couche à la belle étoile en quelque sorte. Et bien je peux vous dire que j'ai eu l'émotion de ma vie, c'est-à-dire, et le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire la chose suivante, aller dans un endroit où il n'y a pas une seule lumière à des dizaines de kilomètres de distance. Une simple bougie située à quelques kilomètres est plus lumineuse que ce que vous avez envie de voir dans le ciel. Donc il faut habituer vos yeux à l'obscurité totale, ne prenez pas une lampe électrique, ne regardez pas une carte du ciel. Mettez-vous dans le noir complet, une nuit où il n'y a pas de lune. Ce que vous constatez, c'est que vous ne voyez plus la terre à un moment donné. Dans ce désert, je ne voyais plus la terre, je ne voyais plus que le ciel. Autrement dit, je flottais dans l'espace. Et là, j'ai compris les sentiments qui ont animé nos ancêtres, il y a de cela 2 ou 3 000 ans, qui se sont dit, mais qui sommes-nous? Mais où allons-nous? Est-ce qu'il y en a d'autres? Les questions fondamentales qui sont à la base de toute notre philosophie. Et chaque civilisation, qu'il s'agisse de la Polynésie, des Esquimaux, de l'Afrique, de l'Asie, chacune a répondu à sa manière. Et toutes les contes, les légendes, les histoires, les mythologies, la métaphysique, physique des hommes est née de regarder ce ciel sans aucune lumière polluante. Eh bien, je peux vous dire, si vous faites cela, mettez-vous loin d'une ville, mettez-vous loin des voitures, mettez-vous loin de la route, eh bien, vous aurez une émotion unique, ça changera votre vie. Ça va bien au-delà de la beauté. Regardez le ciel, il est merveilleux. Et quand il y a la pleine lune, prenez une paire de jumelles, regardez la limite entre l'ombre et la lumière, vous aurez l'impression de faire de l'avion sur la lune. C'est aussi un spectacle extraordinaire.
De quoi donner envie en écoutant ce témoignage du regretté André Braïk de créer des réserves de ciel étoilé, Zouhair Ben Khaldoun, pour justement André faire partager ça au plus grand nombre.
André Braïk fut un collègue et un ami. On l'a invité plus de 3-4 fois au Maroc pour venir animer des conférences au grand public. Le verbe très facile et vraiment, c'est quelqu'un très regretté. Je dis ça avec un peu d'émotion.
Je suis d'accord.
Et voilà, et donc c'est des gens comme lui qui portent, je dirais, la bonne parole, qui nous aident à sensibiliser autour de l'astronomie en général.
Et justement, nous sommes ici à l'université Kadi Ayad de Marrakech, dans la faculté des sciences. Est-ce que les jeunes marocains, j'ai vu des jeunes filles étudiantes participer à ces ateliers, sont sensibles et sensibilisées à cette question de la pollution lumineuse et aux études astrophysiques, astronomiques?
Sensibles, peut-être pas. pas encore, mais sensibiliser, oui, depuis, comme l'a dit notre collègue le Ramizi, depuis au moins les ateliers qu'on a commencé à faire dès que le projet a démarré, et commence à se poser des questions qu'ils n'auraient jamais peut-être pensé à se poser.
Parce que
vous savez, quand on vit dans un environnement, on n'a pas forcément conscience de la chance qu'on a quand l'environnement est propre et pas pollué. On se rend compte quand on comprend par la suite que l'environnement est bon. Donc si on prend le mal à la racine, et donc très tôt, et c'est la stratégie que nous essayons de développer, souvent les gens quand ils prennent de l'âge, c'est déjà trop tard. Donc il faut prendre les personnes très jeunes et les sensibiliser à cet aspect-là.
Voilà. Parce que vous sensibilisez à la fois les étudiants et étudiantes qui sont ici sur le campus de l'université, mais aussi avec ces ateliers dans l'Atlas, vous allez dans les villages pour que finalement chacun puisse se rendre compte de ce patrimoine, de l'importance de préserver la nuit pour regarder le ciel, mais aussi pour la biodiversité environnante.
Même Martin l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord stopper. Et donc, c'est important d'arrêter les choses pour peut-être les améliorer par la suite.
Et d'arrêter aussi, je vous interromps, excusez-moi Zoïr, mais d'arrêter aussi un développement anarchique de la lumière aussi,
voilà,
peut-être.
Voilà, c'est ça. Et donc, aller vraiment, vous savez qui décide maintenant de mettre de la lumière? C'est des élus, c'est des représentants de la population. Et leur seul intérêt ou importance ou ce qu'ils ont eu à savoir, c'est mettre l'électricité pour pouvoir mettre une machine à laver, pour regarder la télé, etc. Et donc l'éclairage qui va avec, etc. Et ces gens-là, c'est normal qu'ils réfléchissent de cette manière. Et jamais dans leur vie, ils n'ont pensé que le ciel qu'ils ont est une richesse. Et donc... Oui, d'accord pour le développement, oui, d'accord pour la civilisation, entre guillemets, mais si dès leur plus jeune âge, ils savent qu'en fait, même leur gagne-pain des fois, parce que le Maroc est très attractif du point de vue touristique, et il y a des voyages maintenant qui sont organisés, astrotourisme, etc. Mmh. Et donc, s'ils sont sensibilisés, quand eux, ils vont grandir, quand ils vont devenir représentants de la population, ils seront plus enclins à porter la bonne parole et à arrêter donc cette catastrophe de pollution lumineuse.
C'est voilà. Ça, arrêter cette catastrophe de pollution lumineuse, et le développement peut se faire quand même, c'est pas l'un ou l'autre, ouais. c'est avec, oui, hein, c'est
exactement.
Les deux ensemble. Hein.
Exactement, vous le savez maintenant, avec parler un peu de politique, un peu partout en Europe, il y a le mouvement qu'on appelle les Verts, qui se développe, qui commence à avoir beaucoup de... Eh bien, c'est ça, c'est en fait que les gens, quand ils ont pris conscience qu'il y a un environnement important à protéger, sans forcément abandonner le développement économique, le bien-être, la technologie, etc., eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus sensibilisés, même, je dirais, pour ceux qui n'ont pas la fibre écologique, ils commencent à comprendre maintenant avec que ça peut être mené de pair, le développement scientifique, le développement technologique, le bien-être
humain
du point de vue du confort ressenti à l'instant présent, mais tout en réfléchissant à long terme. Donc le développement durable, il a été inventé, ben c'est ça. Donc on pense de plus en plus au développement durable. Voilà.
Ici au Maroc, Sébastien Vauclair.
Oui, donc ce que vient de dire Zoé est important, parce que c'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup d'astronomie, de biodiversité, ce qui est tout à fait normal, puisque la thématique de la pollution lumineuse est née finalement dans les années 1970 aux États-Unis, hein, chez les astronomes professionnels qui voyaient, comme disait Zoé, leur gagne-pain, entre guillemets, peut-être partir en fumée. Et ensuite, on a compris que... En gros, l'astronomie au niveau mondial, hein, quand on parle des politiques, etc., tout le monde s'en fiche. Hein, donc, on n'avait pas un auditoire vraiment important pour faire prendre conscience du problème. Donc, on a rajouté un peu de biodiversité, une petite pincée de biodiversité pour commencer à élargir l'auditoire, ce qui a marché très bien.
Et mais puis, on s'est rendu compte en plus que ça affectait véritablement la biodiversité.
Bien sûr, non, mais je dis ça un petit peu sur le ton humoristique, mais c'est absolument fondamental. Mais moi, j'aimerais juste revenir aussi très pragmatique, hein, parce que là, on est des scientifiques, des astronomes, mais aujourd'hui, la pollution lumineuse et la gestion de l'éclairage public, public. C'est vraiment quelque chose, ben, comme son nom l'indique, c'est l'éclairage public. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est géré par le politique, pour le citoyen et pour tout un chacun. Et donc c'est quelque chose de finalement très concret, très pragmatique sur le terrain. Et on parlait tout à l'heure, vous étiez sur la terrasse de l'hôtel, ce qui doit être au 5e étage, et vous mesuriez la lumière directe. Il faut quand même se rendre compte des choses très simples, c'est-à-dire que la lumière dans l'espace public est là pour servir aux citoyens. Jusqu'à preuve du contraire, l'être humain, il évolue plutôt sur le plancher des vaches, hein, donc il faut plutôt éclairer vers le bas. Martin parlait de problèmes de santé, etc., qui commencent à être étudiés, même si effectivement il faut des preuves un peu plus robustes, comme on dit. Mais il y a quand même quelque chose, moi, que j'aime bien aussi mettre en exergue, c'est qu'il y a un paradoxe assez phénoménal dans cette histoire. C'est qu'on parle d'éclairage public, ça veut dire que c'est payé par les impôts, par les taxes des citoyens. Ces taxes servent normalement pour améliorer la vie des citoyens. Or là, avec l'éclairage public mal géré, comme on le voit partout, et malheureusement Marrakech n'est pas le meilleur exemple là, que j'ai pu voir, puisqu'il y a effectivement un développement un peu plus tardif qu'en Europe, mais du coup beaucoup plus rapide. Et donc on a un problème qu'on appelle la lumière intrusive. Hein. C'est le premier phénomène qui fait qu'il y a des problèmes de santé aussi, mais le fait qu'il y ait de la lumière intrusive en tant que telle, avant même d'avoir des implications en termes de santé publique, c'est une violation de nos libertés individuelles. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous avez envie de dormir parce qu'il fait chaud, parce qu'il n'y a pas d'air, etc., en ouvrant les volets, en ouvrant la fenêtre, et vous avez envie de dormir comme il faut, mais vous ne pouvez pas, parce que la lumière que vous avez payée avec vos propres taxes et impôts rentre chez vous alors que vous n'avez rien demandé. Et en plus, ça va vous causer des problèmes de santé. Donc on atteint quand même un niveau de paradoxe qui est important aussi de bien assimiler, parce que bah, n'importe qui, personne ne souhaite ça, je veux dire. On ne souhaite pas s'abîmer notre santé, nous violer nos propres libertés individuelles avec notre argent, je veux dire, on a mieux à faire avec ça, quoi. Donc ça, c'est un des aspects. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre avec la pollution lumineuse, et j'arrête là-dessus, sur cet argument-là, c'est de mieux réfléchir à l'éclairage public, c'est-à-dire c'est du progrès, hein, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Les gens disent, vous voulez enlever de la lumière alors que c'est le progrès. Non, au contraire, on a mis de la lumière partout sans réfléchir à ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on réfléchit à l'usage de cette lumière, et c'est ça le vrai progrès. Et on est en train de résoudre une équation absolument magique, c'est-à-dire qu'on améliore la qualité de vie des gens, on réduit les dépenses publiques et donc les impôts des gens, on diminue notre impact négatif sur la biodiversité, en plus on retrouve le ciel étoilé, mais finalement je le mets presque comme un dernier argument.
C'est tout bénéf.
Et on évite les problèmes de santé publique. Et en plus, cerise sur le gâteau, on en est des bons exemples vivants ici, on crée de l'activité économique. C'est-à-dire qu'on crée des emplois en allant travailler pour améliorer l'éclairage public. Voilà. Après, il y a d'autres petits arguments. Si on veut fermer des centrales nucléaires, par exemple, comme c'est un grand débat en France aujourd'hui, bah, c'est peut-être une des manières aussi de consommer moins d'énergie. Bref, il n'y a aucun argument négatif à travailler sur la pollution lumineuse et à l'amélioration de l'éclairage public. Donc allons-y, il n'y a aucune raison de se priver.
Allons-y, hein, allons-y, Martin Aubé.
Oui, Sébastien l'a mentionné, c'est gagnant.
C'est gagnant-gagnant.
Il
n'y
a pas de perdant dans cette histoire. Peut-être les fabricants de lumière, mais sinon,
ils font de la recherche et du développement. Et quand ils ont compris que les élus demandent tel et tel type de lampadaire, ils les fabriquent et ils les vendent. Et ils en vendent plus, donc il n'y a pas de problème.
Il faut peut-être le dire de fabriquer un peu moins de LED bleu, Martin Aubé.
Ce qui est très intéressant, c'est que les solutions sont simples. Par exemple, il y a des solutions qui ont été mises en œuvre en France, dans plusieurs communautés, plusieurs villages, simplement passer mes nuits et éteindre les lumières. Donc, c'est quelque chose.
C'est pas si compliqué.
C'est facile.
Ça, hein?
On n'a rien à faire ou pratiquement à rajouter un système d'horlogerie sur le système d'éclairage. C'est assez simple.
Donc, et est-ce que les réserves de ciel étoilé, comme celle-ci qui est en train de se créer en Afrique du Nord, comme celle qui existe en Europe ou sur le continent américain, est-ce que c'est l'avenir ou est-ce que l'avenir, ce serait qu'il n'y ait même plus besoin de réserves de ciel
étoilé?
Moi,
je pense qu'il n'y en aura plus besoin un jour. On peut rêver.
Rêvons.
On peut rêver, mais oui. Je pense que maintenant, on est en train, au fond, de créer une nouvelle situation qui, on l'espère, va devenir la norme.
Vive les réserves de ciel étoilé. Le mot de conclusion, Sébastien?
Juste pour terminer sur ce que vient de dire Martin, c'est en train de le devenir. Hein. Il y a des lois qui sont aujourd'hui votées, qui commencent à être même appliquées, ce qui n'est pas le cas de toutes les lois. Hein. Il y a un décret d'application qui est arrivé. Par exemple, toutes les enseignes commerciales, les mises en valeur de monuments, les bureaux inoccupés, etc., doivent être éteints la nuit. C'est-à-dire que si vous voyez une vitrine de commerce allumée après 1h du matin, ils sont hors la loi. Si vous voyez un maire qui éclaire le clocher de son église après 1h du matin, il est hors la loi. En France, hein, je parle pour l'instant. Mais il y a des législations comme ça dans pas mal d'autres pays dans le monde, hein, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc peut-être un jour au Maroc.
au Maroc, Zoher Ben Khaldoun, pour terminer, lieu, oui, votre rêve.
Juste pour conclure aussi, il faut dire que on démarre donc ce projet, on a démarré il y a quelques mois, je dirais, grâce à l'appui, encore une fois, des spécialistes.
Donc de réserve internationale de ciel étoilé, ici dans le Haut Atlas, voilà, autour de l'observatoire de Kemden.
C'est ça. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a eu un concours de circonstances très, je dirais, incroyable. C'est qu'il y a eu, comme vous le savez, l'organisation de la COP 22 au Maroc en 2016. Et du coup, en fait, à Marrakech en particulier, il y a eu beaucoup de projets qui se sont développés pour le développement responsable, tous ces aspects-là. Et donc l'université a suivi. Ce mouvement.
Cette université où nous sommes ici.
L'université Qadaïa de Marrakech, oui, et a décidé de lancer des appels d'offres à projets socialement responsables. Et donc nous, on n'a pas raté l'occasion. Évidemment, on avait ce projet, dans les tiroirs,
dans votre cœur.
Dans notre cœur et dans notre programmation. Et donc,
ce
fait d'avoir officialisé ce projet, parce qu'il a été retenu, il a été même financé, le projet le mieux financé parmi les projets qui ont été déposés. Donc, quand on a l'habitude de dire, bon, l'astronomie, à quoi ça sert, et qu'à une université marocaine, un projet porté par des astronomes soit classé premier, il faut dire que les spécialistes ont fait du bon travail.
Merci infiniment à vous trois. On souhaite le meilleur à ce projet qui est vraiment en cours, hein, de réserve internationale de ciel étoilé. Merci en tout cas de nous avoir fait partager vos lumières, si j'ose dire, sur l'importance de nos nuits étoilées. Toutes les pistes de recherche aussi qu'en chercheurs engagés vous développez ensemble ici dans cet atelier international et interdisciplinaire sur la pollution lumineuse. Pour en savoir plus sur cette future réserve internationale de ciel étoilé, rendez-vous sur le site Atlas Dark Sky. Et le lien est sur notre page. Merci Zoher, merci Sébastien, merci Martin et bonne fin de colloque et d'atelier ici au Maroc. Un grand merci à Hugo Violas pour la réalisation nomade et inspirée de cette émission étoilée. On se quitte avec plein d'étoiles dans la tête. Le groupe R sur RFI New Star in the Sky. La tête dans les étoiles pour ces rediffusions d'été à réécouter et à podcaster sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, c'est à toutes vos intelligences que nous ferons appel, chers amis auditeurs libres et curieux, autour de la question pourquoi notre cerveau apprend mieux que les machines. Nous vous proposerons de réécouter l'entretien que nous avait accordé le professeur Stanislas Dehaene sur les talents du cerveau humain comparé à l'apprentissage machine. On est encore gagnant, surtout si l'on garde l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de vos informations.